Radio Forum. Les paroles des quartiers populaires. Une production Making Waves.
Le marché, ça va. Il est cher un peu, franchement, mais ça va. J'ai acheté les fruits, toujours les fruits, mais la viande, jamais j'ai acheté ici. J'ai acheté à Rony 2. Il y a la viande, il est très très bon. Après, je pour les maladies, c'est tout. Mais pour les vaisselles, c'est bien ici, franchement. Voilà, pour les cadeaux à Rony 2, toujours j'achète pour ma fille là-bas. Voilà, même les vêtements aussi, comment ils s'appellent?
Jouets.
Non, j'achète les vêtements où? À Rony 2.
Rony à qui habille?
Voilà, tu vois. Il a connu tout, hein? Eh ouais.
Clémentine,
t'as
un sac de haricots, haricots blancs.
Haricots blancs?
Ouais. Avant, j'étais un fruit et légumes, moi, ici, c'est pour ça. Après, j'ai arrêté, là, je suis en poids lourd. J'ai changé complètement de travail à cause de la situation. Ça change au niveau des prix qu'on a. Avant, on a par exemple 1000 euros, 2000 euros, on peut acheter des choses, mais actuellement, on ne peut pas même pas. C'est dur.
Vous trouvez que c'est moins cher, par exemple, de faire vos courses?
Oui. Ah, je suis un farouguer, mais je suis un marchand quand même. J'étais un marchand, je sais ce que ça veut dire le marché. Par contre, par rapport à l'autre marché, oui, le Noisy-Sec est vraiment, c'est moins cher. Il y a ça, il y a Argentat, il y a 10 marchés. Voilà. Pour moi, ça me convient très bien. Je fais mes courses. Soit au niveau des olives, au niveau de fruits et légumes, voilà. Avec mes potes, les anciens, voilà.
Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue sur Radio Forum, l'émission qui met en lumière les enjeux des quartiers populaires. Je m'appelle Mohamed Ben Saber et aujourd'hui on est au Nul Bar Ailleurs, juste à côté d'un vibrant marché du centre-ville de Noisy-le-Sec. On est dans un des quartiers politiques de la ville de Noisy. Et le marché, c'est un véritable carrefour de la vie politique et sociale de la ville. On est le 19 février et depuis ce marché qui s'anime tous les lundis, mercredis, samedis, on va parler ensemble d'une question cruciale, c'est la précarité alimentaire. C'est un véritable défi au quotidien pour une grande partie de nos concitoyens. Et on est ici ensemble pour essayer de trouver des solutions aux questions qu'on va soulever ensemble. On est juste à côté de l'hôtel de ville et d'un supermarché qui n'est pas très loin. Et pour aborder cette question de précarité alimentaire, on a des invités.
Bah écoutez, moi je suis un Noiséen et je peux dire que Noisy c'est une ville quand même assez sympa. Il y a des gens bien, comme il y a des gens mauvais, comme partout quoi. Voilà.
On n'est pas très loin d'un Carrefour Market. Est-ce que vous allez au Carrefour?
Nous on fait nos courses fruits et légumes. On les fait au marché, nous. Moi, ça fait des années que je vais au marché. Avant, j'allais au primeur à Villemomble, hein, acheter les fruits et légumes. Là. Et depuis quelques années, j'y vais plus. Pourquoi? Parce que c'est devenu cher. Moi, je suis né à Noisy, je connais le marché de Noisy. Ça a changé, mais bon, c'est toujours attractif. Hein.
D'accord, bah, merci beaucoup. Et j'ai à côté de moi, j'ai Assia. Bonjour, Assia.
Bonjour.
Est-ce que... pour vous, c'est compliqué de bien manger à l'heure d'aujourd'hui?
Aujourd'hui, oui. C'est bien difficile de bien manger dans le sens où il y a certaines personnes qui n'ont eu aucune rentrée d'argent.
Alors, du coup, en fait, pour avoir accès à de l'aide alimentaire, il faut donner plein d'informations.
C'est ce que je... informations.
Donc, des revenus, des fiches de paye, des feuilles d'impôt. Est-ce que, pour vous, ça complique l'accès à bien manger?
Ça m'a compliqué l'accès jusqu'à présent. Donc moi, ça fait 3 mois que je suis sans revenu fixe. C'est-à-dire que ni RSA, ni Pôle emploi, ni administration donc journalière, vu que ça s'est coupé le 28 novembre. J'ai été voir donc, les assistantes sociales. J'ai expliqué un petit peu mon cas en expliquant que j'ai quand même 3 enfants à ma charge. J'ai un loyer à payer, que j'ai tout ça. Donc tout ça, c'est en stand-by. En sachant que je ne peux pas donc, subvenir aux besoins ni alimentaires, ni vestimentaires, ni tout ce qui s'ensuit. J'ai été voir donc une assistante sociale en lui expliquant comme quoi que j'avais donc eu un problème d'informatique, on m'a piraté. Donc mes documents, je n'ai pas pu les sortir. Donc, par contre, moi, j'ai pu sortir, aller les voir pour leur expliquer les situations et essayer de voir comment je pourrais débloquer. Suite à ça, je n'ai toujours pas de retour. C'est-à-dire qu'ils m'ont indiqué donc, le Resto du Cœur où j'ai un repas, vu qu'on est 2 et j'en suis avec 3 enfants donc, au domicile. Donc j'ai 2 repas une fois par semaine, donc tous les mardis. En attendant que ma situation se débloque.
Alors, comment on pourrait faire, si vous avez une solution à proposer, pour que on puisse faciliter aux personnes concernées dans vos difficultés que vous vivez à l'heure actuelle, qu'est-ce qu'il faudrait une proposition, qu'est-ce que vous pourriez proposer pour que cela soit le plus fluide pour vous, par exemple?
C'est ce que j'avais proposé à un moment d'ailleurs, c'était vraiment un lieu de rencontre déjà dans le quartier pour pouvoir soutenir les femmes, que ce soit les hommes, que ce soit les personnes âgées ou les enfants qui sont en difficulté, parce qu'il y en a d'autres mamans aussi qui ne peuvent pas aller travailler parce qu'ils ont les enfants de bas âge, on ne peut pas les réceptionner non plus. Donc c'est un cercle ici, on va dire.
Et c'est quoi la suite du coup là dans vos difficultés à l'heure actuelle? C'est quoi les prochaines échéances pour vous? Est-ce que vous avez des rendez-vous pour essayer de débloquer la situation? Ou est-ce que vous allez rester, comme vous dites, dans le pétrin en attendant que ça se débloque?
Ben, mon dossier est bloqué jusqu'au mois de mars pour l'instant. C'est tout ce que je peux avoir comme renseignement.
Et du coup, là, on voit bien qu'en fait, ce que vous expliquez, c'est que les aberrations de l'administration, donc de la CAF ou de la Sécu ou peu importe, s'ils estiment que vous avez bénéficié de quelque chose qui pour eux l'aurait induit, ça vous coupe tout et du coup, ça vous met dans telle situation. C'est bien ça, en fait.
Oui, c'est ça.
Merci beaucoup et bon courage. Alors, je suis avec Zwick, enchanté.
Enchanté, bonjour. Bonjour.
Et moi, j'avais une question à vous poser pour commencer, pour rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, c'est compliqué de bien manger?
De bien manger, effectivement, c'est onéreux. Si on veut commencer à manger du bio ou des choses comme ça, c'est pas donné. Par contre, nous, c'est vrai qu'à Noisy-le-Sec, l'avantage qu'on a, c'est que c'est un marché populaire. Et moi, j'ai plein de gens qui habitent un peu Reny, Villemomble, etc. Ils viennent faire leur marché à Noisy. Hein, pourquoi c'est plus intéressant pour eux.
Donc, est-ce que ce marché, pour vous, ça permet aux habitants de manger correctement?
Oui, parce que les tarifs sont attractifs.
On est souvent au marché de Noisy-le-Sec?
Oui. Tout le temps.
Tout le temps?
Oui.
Combien de fois par semaine?
Les 3 jours de marché. Moi, je prends surtout des légumes, des fruits frais que je cuisine. J'achète pas au supermarché.
Vous achetez tout, tous les fruits et légumes, c'est ici?
Oui.
À côté de moi, j'ai 2 personnes qui travaillent au restaurant du cœur. On a Michel et Daniel. Bonjour, mesdames.
Bonjour.
Et juste à côté, à ma droite, j'ai Hélène qui travaille avec passion à l'épicerie sociale de la ville.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous dire depuis combien de temps vous êtes bénévole au Resto du Cœur?
Alors moi, je suis un petit peu une jeune bénévole. Ça fait juste 2 ans que je suis au Resto du Cœur de Noisy. J'habite Noisy, d'ailleurs.
Alors moi, je suis Danielle et ça fait ma 16e année au Resto du Cœur en tant que responsable de centre. J'ai 2 centres en responsabilité, Reny-sous-Bois et Noisy-le-Sec.
Alors moi, j'avais une question à vous poser à toutes les deux. Vous travaillez au quotidien sur la lutte contre aider les gens à sortir de la précarité. Et à chaque fois que je rencontre des personnes comme vous, moi je me demande toujours qu'est-ce qui a motivé chez vous cette décision. Pourquoi vous avez choisi de vous investir au Resto du Cœur?
Moi, j'ai choisi les Restos du Cœur en fait quand j'ai été à la retraite. Il était hors de question que je ne fasse rien du tout. C'était pas possible. Donc je me suis dit pourquoi pas une association. Je rentrais de vacances et je passe là devant les Restos du Cœur et c'était ouvert. Et en fait, ils étaient en train de mettre en place le lendemain, ils ouvraient. Alors je suis rentrée et puis je suis pas repartie. Ma motivation, c'est d'aider les gens et c'est une sacrée occupation, hein, ça je peux vous le dire. Hein.
Pour moi, bah, c'est un petit peu la même chose. J'avais pas le temps. Ça fait 2 ans que j'ai cette possibilité, donc je l'ai faite. J'habite à côté et les Restos du Cœur, on ne peut pas ne pas s'investir dans une chose comme ça.
Alors, on ne peut pas parler des Restos du Cœur sans évoquer la situation difficile des Restos du Cœur qui, pour la première fois cette année, ont fait part de leur grande difficulté à
Absolument.
Pouvoir absorber et accueillir l'ensemble des personnes étant en précarité alimentaire.
C'est la première année que les Restos du Cœur sont dans une très grande précarité financière.
Mais ça, c'est lié aux augmentations de tout.
Toutes sortes de choses.
Toutes sortes de choses, ouais, c'est ça.
Il y a plein de critères.
Et puis l'augmentation du nombre aussi de bénéficiaires. Parce que c'est énorme. Il y a eu une augmentation de plus de 20%.
Plus que ça même.
Plus que ça même.
Ouais, plus que ça. Au niveau du 93, en un an de temps, nous avons augmenté le nombre de personnes accueillies de 27%.
Alors concrètement, à Noisy, comment ça se traduit cette augmentation par rapport à ce que vous faites au quotidien?
Alors,
mais c'est le nombre d'inscriptions qui nous montre qu'on a une augmentation considérable.
Oui, oui. On en est à 430 familles inscrites, ce qui représente grosso modo environ 1200, 1300 personnes distribuées.
Et du coup, est-ce que vous rencontrez, vous, maintenant, de plus en plus de difficultés pour vous approvisionner
Absolument.
En nourriture, par exemple, pour répondre à la demande croissante que vous expliquez
Même
maintenant.
Si on n'a plus rien à distribuer, on trouve toujours un petit quelque chose à donner à une personne pour faire un dépannage.
Je vais juste vous dire une chose. Quand je suis arrivée il y a 2 ans, il y a très peu de temps, en fin de compte, les locaux regorgeaient de conserves, de tas de choses, de produits secs... choses comme ça. Aujourd'hui, on a nos locaux qui sont quasiment...
On a des locaux, oui.
On n'a pas de stock. On n'a plus de stock. Voilà, c'est ça.
On n'a plus.
Alors, je pense que ce qu'on a abordé, ça va faire écho à pas mal de choses chez Hélène. Rebonjour, Hélène.
Bonjour.
Rebonjour. Ouais. Est-ce que, très rapidement, vous pouvez nous expliquer le fonctionnement de l'épicerie solidaire sur Noisy-le-Sec que vous portez ?
Pour venir à l'épicerie, comme c'est une boutique et nous avons donc des clients, il faut qu'ils soient en capacité de pouvoir acheter les denrées. C'est-à-dire que toute personne qui vient à l'épicerie nécessairement est suivie par une assistante sociale, soit du CCS, soit du service social départemental. Et il faut que les familles aient un reste à vivre au-dessus de 3 euros par jour et par personne. Puisque la précarité économique et financière, c'est les personnes qui ont moins de 2,50 euros par jour et par personne pour vivre... Nous, on se situe juste à cette lisière-là, en fait. Et les Restos du Cœur sont avant.
Alors justement, avec les Restaurants du Cœur, on a abordé le stock.
Oui.
Est-ce que vous avez des difficultés, en tant qu'épicerie solidaire, à pouvoir bénéficier d'un stock assez conséquent ?
Effectivement. Alors, on est, nous, dans une année de démarrage, donc une année très expérimentale. Et donc, effectivement, de pouvoir travailler la question du stock, c'est un élément important. Parce que dans notre réflexion, on porte une réflexion sur le droit à l'alimentation pour tous et le droit à une alimentation de qualité pour tous. Et donc, il y a une part non négligeable de notre stock qui est dédiée à des produits, des fruits et légumes bio. Puisque, effectivement, on a cette réflexion autour de la sécurité sociale de l'alimentation. Au-delà de soutenir les familles sur un temps long, il y a aussi cette réflexion de l'accessibilité à une alimentation de qualité pour tous. Ça n'est pas parce qu'on est en situation de précarité qu'on doit être les derniers à pouvoir consommer quelque chose de qualité.
Moi, j'ai une question qui me vient à l'esprit, parce qu'on est là aussi ensemble pour essayer de trouver des solutions, ou en tout cas faire remonter des solutions aux donneurs d'ordre, aux politiques. Alors, bien manger, ça coûte cher. C'est ce que vous dites aussi. Et alors, du coup, qu'est-ce qu'on pourrait faire, nous, comme proposition à celles et ceux qui font les lois pour pouvoir garantir l'accès à une alimentation saine à toutes et tous ?
Alors, si c'est moi qui réponds là, ma réflexion, j'en ai parlé un tout petit peu juste avant. En tout cas, pour les personnes qui sont en difficulté financière et économique pour acheter de la nourriture de qualité, il y a au minimum 2 choses. La première chose, c'est à notre niveau, c'est défendre le dossier politique de la sécurité alimentaire, la sécurité sociale de l'alimentation, c'est de permettre de mettre en place des caisses mutualisées qui permettent aux personnes de pouvoir acheter au même titre que la sécu sociale protège notre santé, d'avoir effectivement un volet alimentaire à cette, entre guillemets, sécu sociale. Et au niveau local et au niveau politique, c'est de permettre aussi un maillage alimentaire diversifié sur le territoire. Et effectivement, la Seine-Saint-Denis et Noisy-le-Sec en particulier, il y a des trous dans ce maillage. Alors, vous parliez du marché. Donc, petit à petit, on voit arriver une diversification alimentaire sur le marché. Mais on doit pouvoir aussi avoir accès à une alimentation de qualité, de proximité, à un coût raisonnable pour la population. Ce qui est important aussi, c'est un troisième point, c'est la coordination des acteurs du territoire. C'est vrai que bon, nous, on est encore bébé par rapport aux Restos du Cœur, mais je sais qu'on travaille de façon très, très étroite avec les Restos du Cœur depuis le début. J'ai commencé à mettre en place, mais se pose la problématique du stockage, des collectes dans les écoles de la ville. On peut ramasser dans les écoles des produits laitiers de qualité, des petits fromages et des fruits. Se pose maintenant la question du stockage des denrées, c'est-à-dire que ce soit du côté des Restos du Cœur comme de chez nous, nous ne disposons pas de grandes réserves pour le stockage. Et c'est un peu un frein aussi à une forme de mutualisation des,
oui, c'est ça, oui.
des dispositifs oui, sur oui. le territoire.
Alors, voilà. Je me permets de rebondir sur ce que vous venez de dire. Là, vous venez de parler des Galim. Mmh. Est-ce que ce qui se passe actuellement au niveau des agriculteurs, est-ce que la situation sociale des agriculteurs, ce qui se passe actuellement, est-ce que ça a des incidences directes sur les premiers bénéficiaires que vous accompagnez?
On en a eu. Oui, on a moins de produits frais qui nous arrivent du département par rapport à la situation des agriculteurs. On en a moins quand même, hein. On a moins de produits frais. Des légumes, on en a moins.
Comment nous pouvons, à notre niveau, agir sur cette filière-là? Donc nous, on a deux pistes qui sont expérimentées. Une piste de pouvoir faire des partenariats avec des producteurs et des agriculteurs en circuit court pour acheter de la marchandise en direct et pourquoi pas faire du maraudage pour éviter que ces produits de qualité se perdent dans les champs. Et la deuxième expérimentation, c'est comment, à travers des paniers solidaires, on peut trouver des sources de financement, donc des subventions, pour financer des paniers de fruits et légumes bio achetés à des producteurs. Donc ça permet de stabiliser leur activité et que l'on revend à moindre coût à des familles qui en ont le plus besoin.
Tout à l'heure, en arrivant sur le lieu d'émission, on a entendu la parole des premiers concernés par la précarité qui nous disaient en fait que celles et ceux qui les mettaient en difficulté étaient l'institution. On a beaucoup parlé avec elle tout à l'heure de trop perçu de la CAF ou de Pôle emploi.
Nous, en fait, c'est donc dans le prolongement de ce que tu viens de dire. Donc, il y a nécessairement un accompagnement social, donc à travers le travail d'une assistante sociale. Et dans cet accompagnement social, il y a effectivement ce réseau de bénévoles. Nous avons également des personnes qui travaillent l'accès aux droits, qui travaillent la gestion budgétaire, qui travaillent la question de l'insertion. Et donc, c'est cet accompagnement global qui permet aux familles, sur un temps long, de pouvoir sortir de leur situation.
Alors, on a parlé un peu des jeunes, là, aussi.
Oui.
Et durant la crise du Covid et post-Covid, il y a une image qui a profondément marqué un peu la société. C'était tous ces jeunes étudiants qui faisaient la queue pour pouvoir bénéficier de l'aide alimentaire. Et on s'est rendu compte que les étudiants français étaient aussi en très très grande précarité alimentaire.
Moi, à titre personnel, c'est que je vois toute personne faisant la queue pour l'aide alimentaire, étudiant ou retraité, parce qu'en fait, on a les deux extrêmes finalement de du parcours de vie. Et voilà, toute personne qui doit faire la queue pour se nourrir, y compris les mamans avec des jeunes enfants, etc. Moi, ça me déchire le cœur, hein, comme tout le monde. On porte cette réflexion de pouvoir accueillir à un moment de la semaine une forme de cantine solidaire. Je sais qu'il y a beaucoup d'épiceries solidaires qui se sont montées depuis les CROUS, voilà, au sein même des universités. Mais nous, à titre personnel, nous avons pour l'instant peu d'étudiants.
Alors nous avons quelques étudiants qui sont inscrits au réseau du cœur de Noisy-le-Sec, mais il y a quelques années, le département a ouvert, l'antenne départementale a ouvert un resto du cœur à Villetaneuse, à l'université.
Alors on arrive à la fin de l'émission, on a pas mal débattu, on a pas mal abordé deux points, mais on finit toujours l'émission par une projection, comme on fait remonter des solutions, si on avait en face de nous le législateur. Quelle solution vous voudriez qu'ils mettent en place tout de suite pour régler ou dans tous les cas essayer de réduire cette précarité alimentaire que les habitants rencontrent toutes et tous?
La précarité alimentaire est un élément d'une précarité sociale et oui, en général. Et donc ça veut dire que si on a un législateur qui travaille cette question de la précarité en profondeur, se pose la question des vulnérabilités en général et notamment socio-économiques. C'est-à-dire on est dans une société qui crée de la difficulté, de la fracture économique et on est dans un monde qui va créer, je dirais, de la fracture de façon croissante. Bon, je ne vais pas revenir sur l'impact des du changement climatique et de ce que ça implique dans des pays qui deviennent invivables et des guerres qui sont croissantes également et qui provoquent également des déplacements massifs de population. Et donc se pose la question de comment on crée les conditions de l'accueil, de l'accompagnement et de l'emploi, d'où la question de l'insertion. Et moi, je serais presque plus à demander du pognon pour mieux travailler la question de l'insertion. Et donc, avec les deux axes, territoire zéro chômeur, puisqu'on traite quand même de la grande précarité, territoire zéro chômeur, sécurité sociale de l'alimentation, à mon niveau, ce sont les deux points que j'aimerais pouvoir voir se développer de façon forte.
D'accord. Et vous, Daniel, est-ce que vous avez, si vous devez vous adresser aux législateurs, est-ce que vous avez des propositions à lui faire pour qu'il règle...
Nous, les propositions que l'on pourrait faire, bon, c'est à mon tout petit niveau, hein, puisque comme je vous le dis, tout passe par le département et le national. Hein. On fait partie de l'antenne nationale. Et ce qu'il y a surtout, nous, on reçoit beaucoup de personnes sans papier. Et donc, pour nous, ce serait déjà de régulariser d'office les personnes étrangères, mais qui travaillent depuis déjà au moins 2 ans sur le territoire, pour qu'ils puissent vraiment avoir... Ce serait déjà une première chose. Ça, ce serait vraiment, pour moi, c'est très important.
Là, très j'approuve important. Complètement ce que tu dis, hein. C'est-à-dire c'est d'avoir des important. Personnes qui sont empêchées de travailler alors qu'elles sont... En capacité de le faire, c'est juste oui. insupportable.
Il y a aussi ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple, une personne qui a son titre de séjour, il est par exemple, je ne sais pas, de 2 ans, quand elle pour demander le renouvellement, ça demande des mois, et ils retombent dans le sans-papier. Ils n'ont plus de papier. Alors, parce qu'ils sont inscrits en préfecture, mais ça demande des mois pour renouveler les papiers. Donc ça, il faudrait que, je veux dire, que le législateur, à ce niveau, je ne sais pas, Michel, ce que tu en penses, et toi, Hélène.
Ah ben moi, j'approuve.
Que le renouvellement des papiers se fasse beaucoup plus rapidement que maintenant.
Moi, je voulais vous remercier. Merci infiniment, Hélène. Merci, Daniel, Michel. On a inauguré ensemble premier numéro qui s'appelle Radio Forum sur cette thématique-là qui est hyper importante sur la précarité alimentaire. On a travaillé sur des constats ensemble et surtout on a amené des solutions. Moi, je voulais vous remercier vraiment d'avoir pris le temps de débattre avec nous,
merci
d'apporter votre expertise, parce que c'est vous êtes au quotidien au cœur de ces questions-là et les premiers experts, bah, c'est vous. Et on est très content d'avoir pu échanger avec vous. Merci beaucoup. Making waves.